Bonjour, avant-dernière séance. Aujourd'hui, je vais donc conclure l'ensemble de mes réflexions consacrées à quelle valeur carbone il faut mettre pour affronter nos responsabilités envers les générations futures. C'est la partie la plus complexe aujourd'hui. J'ai bien été un petit peu crescendo ces dernières semaines, même si je ne mets pas d'équation. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'équation. Il y a des chiffres, il n'y a pas d'équation. Les équations sont celles que j'ai développées avec vous les semaines précédentes. Je vais juste les remettre à l'écran, et vous dire quelles sont les conséquences de ces équations. Vous avez bien compris qu'on ne peut pas réfléchir sur la problématique de nos responsabilités envers les générations futures, en particulier quand on pense au changement climatique, sans avoir une discussion sur, au fond, comment représentons cet avenir, à quoi ressemblerait cet avenir selon les actions qu'on pourrait prendre ou ne pas prendre. Et ça, c'est un sujet compliqué. Ce n'est pas un sujet très compliqué quand il faut raisonner sur l'année ou les 5 ans à venir. C'est déjà un sujet assez compliqué pour les économistes qui ont été rarement capables de prédire, même à horizon court. Mais quand on raisonne sur le changement climatique qui engage l'avenir long, 1 siècle, 2 siècles, ou quand on raisonne sur les problèmes de déchets nucléaires où on engage l'avenir sur 1 million d'années, évidemment, la vision qu'on a sur cet avenir... D'abord, on peut avoir des désaccords, et puis on peut aussi reconnaître que cet avenir, et j'espère qu'on le reconnaît, est profondément incertain. Donc, et c'est dans le titre de ma séance aujourd'hui, l'incertitude profonde qui affecte cet avenir. Comment affecte-t-elle cette incertitude? Comment affecte-t-elle la façon dont on doit engager tout de suite, rapidement, dans l'urgence, à quelle intensité, nos efforts de réduction des émissions de CO2? On ne peut pas réfléchir sur le prix du carbone, pour résumer, sans avoir un débat, une discussion sur à quoi ressemble... Est-ce qu'on peut avoir un consensus sur à quoi ressemble, même sous une forme stochastique, sous une forme probabilisée, ou non probabilisé, mon invité Jean-Marc Talon y reviendra, la vision du futur. Voilà. Donc, pour mettre à nouveau les choses en perspective, difficile de réfléchir à ce sujet de changement climatique parce que les conséquences de nos actions ou de notre inaction ont elles-mêmes une dimension d'incertitude. Vous réduisez d'une tonne vos émissions de CO2 aujourd'hui, qu'est-ce que ça engendre comme bénéfice pour les générations futures? Alors, quand je regarde les modèles, par exemple, ceux de William Nordhaus ou d'autres, j'observe que quand vous réduisez d'une tonne vos émissions de CO2 aujourd'hui, vous engendrez un bénéfice pour les générations futures qui va s'étaler dans un temps long, qui a beaucoup de dimensions d'incertitude, mais en moyenne, cet impact positif sur le bien-être des générations futures, sur les dommages réduits liés au changement climatique, vont se positionner dans 80 ans. Ça sera dans 160 ans, ça sera dans 10 ans, mais en moyenne, c'est 80 ans. Donc la duration du flux de bénéfices engendrés par le fait de ne pas émettre une tonne de CO2 aujourd'hui, c'est un flux long. Il a une duration, il a une maturité moyenne de 80 ans. Et donc les dommages sont étalés autour de 80 ans, un petit peu avant, un petit peu après, en moyenne à 80 ans. Quel est le niveau de ce dommage? Mais là aussi, communiquer là-dessus, c'est compliqué. Autant duration, on peut comprendre, c'est la maturité moyenne du bénéfice, autant le niveau du dommage est aussi une chose compliquée. Et une façon de synthétiser ce dommage, c'est de dire, au fond, si tous les dommages étaient concentrés dans 80 ans, donc en 2102, si je concentrais tous les dommages en 2102 liés au fait de dommages non évités grâce au fait d'éviter d'émettre une tonne de CO2 aujourd'hui, ce dommage serait de 1 000 euros, 1 000 euros de 2022. D'accord ? Donc, cette simplification, dire en fait, cet effort de ne pas émettre une tonne de CO2 aujourd'hui engendre des flux incertains sur une durée longue. En fait, je le simplifie en disant, et vous comprenez bien, c'est une nature pédagogique, ce n'est pas la réalité scientifique, mais ça a une valeur équivalente à éviter un dommage de 1 000 euros dans 80 ans. La question devient assez simple dans ce cas-là. Quelle est la valeur aujourd'hui de d'offrir aux gens qui vivront en 2102 1000 euros supplémentaires de revenus, de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier comme pouvoir d'achat aujourd'hui ? Ça dépend du taux d'actualisation que vous utilisez. Et j'ai mis là la valeur présente de 1000 euros dans 80 ans en fonction du taux d'actualisation que l'on pourrait utiliser. Si vous utilisez un taux d'actualisation de 0%, ben, ça sera 1000 euros. La valeur de 1000 euros dans 80 ans, quand vous actualisez à 0%, c'est 1000 euros. Si vous utilisez un taux d'actualisation de 1%, ben, ça sera 451 euros. Si vous utilisez 4%, ça sera 43 euros, etc., etc. Vous voyez l'importance du choix du taux d'actualisation. Le choix du taux d'actualisation concentre en fait l'essentiel de la problématique de quelles sont nos responsabilités envers les générations futures. Et si vous utilisez un taux d'actualisation élevé, vous pénalisez massivement l'avenir, vous êtes présentiste, vous êtes court-termiste et vous n'allez pas faire beaucoup d'efforts. Et si vous utilisez 4%, ben vous n'êtes pas prêt à payer plus de 43 euros aujourd'hui pour éviter un dommage de 1000 euros dans 80 ans. Par contre, si vous utilisez 1%, vous êtes prêt à payer jusqu'à 450 euros pour éviter un dommage de 1000 euros dans 80 ans. Donc ça, c'est la valeur carbone en fonction du taux d'actualisation. Si on accepte mon approximation, j'ai souligné le verbe approximer, c'est le point central. Donc voyez bien, en fonction du taux d'actualisation que j'utilise, j'ai des réponses radicalement différentes sur quelle valeur carbone je dois utiliser. Pour votre rappel, j'ai mis ce matin, enfin mon assistante a mis ce matin, ces transparents ainsi que les transparents de mon invité Jean-Marc Talon sur mon site web ATSE. Vous l'avez peut-être déjà utilisé dans le passé, mais donc ce matin, vous avez ces slides, vous pouvez y accéder dès maintenant. Donc, théorie de l'actualisation. Pourquoi on actualise le futur ? Mais je vous ai expliqué, parce que le futur, on sera plus heureux, on sera plus prospère, et donc investir pour l'avenir, c'est augmenter les inégalités intergénérationnelles. Pourquoi demander aux gens pauvres, nous, moi, de faire des sacrifices pour le bénéfice de gens qui seront bien plus riches que nous ? C'est évidemment un problème. Il faut donc compenser cette augmentation des inégalités intergénérationnelles consécutives au fait de demander des investissements supplémentaires aux générations futures. Ce n'est socialement désirable que si le rendement sociétal de cet investissement est suffisamment élevé pour compenser cette augmentation des inégalités intergénérationnelles. Et donc ça fixe le taux de rendement interne minimum qui rend l'investissement socialement désirable, c'est le taux d'actualisation. D'accord, donc ça a conduit à la règle de Ramsey qui m'a conduit il y a 15 jours à recommander, dans un monde sans incertitude, d'utiliser un taux d'actualisation de 4%, pour actualiser le long terme. Et donc à 4%, le prix du carbone est à 43 euros. Et puis je vous ai dit stop, Ramsey, ce n'est possible qu'en certitude. Si on était certain que la croissance économique serait de 2% par an, et à 2% par an de croissance, il faut utiliser un taux d'actualisation en utilisant un ramener de 2 fois 2%, c'est-à-dire 4%. Mais ça, c'est évidemment vrai que quand il n'y a pas d'incertitude. Or, évidemment, imaginez nos responsabilités envers les générations futures en faisant l'hypothèse de la prospérité garantie de 2% par an, c'est un petit peu absurde, quoi. Parce que bien entendu que pour les horizons dont je vous parle depuis tout à l'heure, l'incertitude est tout à fait radicale et importante. Donc, ceci m'a mené la semaine dernière à développer un modèle qui s'appelle le modèle d'évaluation des actifs financiers fondé sur la consommation, donc Consumption-Based Capital Asset Pricing Model. Et de ce modèle, j'ai déduit deux impacts d'une incertitude sur le taux d'actualisation. Le premier impact, c'est quand le futur est incertain, il faut se comporter de façon plus prudente. Et donc, exactement comme les ménages qui épargnent plus quand leur futur est plus incertain, il faut collectivement investir plus quand le futur collectif est plus incertain. Et ça se fait en baissant le taux d'actualisation. Donc ça, c'est un argument de prudence. D'accord ? Donc, l'argument de prudence dit ben, introduire l'incertitude dans la règle de Ramsey nous dit qu'il faut baisser le taux d'actualisation. D'accord ? Pour faire en sorte que plus d'investissements passent la barre d'une valeur actualisée nette positive. Ça, c'est le premier bullet point. Ça réduit donc le taux d'actualisation. Donc, le risque réduit le taux d'actualisation. Et ça, les économistes d'environnement, ils adorent parce que ça veut dire une valeur carbone plus élevée. Hein, rappelez-vous le tableau précédent. On baisse le taux d'actualisation, valeur carbone plus élevée. Et pendant, figurez-vous que pendant très longtemps, et encore pour beaucoup de mes collègues, la problématique du taux d'actualisation reste totalement limitée à la règle de Ramsey. Je dis, mais attendez, l'incertitude, c'est important. Alors, ils acceptent, certains ont depuis quelques années accepté d'introduire l'incertitude dans leur modèle, mais alors ils ne tiennent compte que de cet aspect-là, qu'il y a de l'incertitude, donc ça fait baisser le taux d'actualisation, donc la valeur carbone est plus élevée, donc il faut en faire plus. Le problème, c'est qu'il y a un deuxième impact de l'incertitude sur les valorisations des actions présentes. Les actions présentes, en particulier d'horizons longs comme ceux que j'évoque avec vous pour l'instant, sont eux-mêmes incertains. Les bénéfices de ces actions, comme réduire les émissions de CO2 aujourd'hui, hein, si on n'est pas sûr que ça sera 1 000 euros dans 80 ans, ça pourrait être 2 000 euros, ça pourrait être 200 euros. Ça dépend de tas de facteurs, notamment la sensibilité climatique. J'en ai parlé, je pense, la semaine dernière ou il y a 15 jours. Il y a énormément d'incertitudes. Les climatologues disent qu'on n'est pas complètement sûr, et loin s'en faut, de quelle est la sensibilité climatique quand on double la concentration de CO2. Est-ce que la température moyenne de la Terre va augmenter de 1 degré ou de 5 degrés? Eh bien, ils ne savent pas. Aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment. D'accord ? Et donc, il faut intégrer cet élément dans l'incertitude, comme incertitude dans l'analyse. Et donc, les bénéfices de notre action de réduire nos émissions de CO2 ben, sera très élevé si la sensibilité climatique est importante, mais plus faible si on réalise que finalement la sensibilité climatique est moins forte que celle qu'on avait anticipée. D'accord ? Donc, cette incertitude, il faut en prendre compte, il faut en rendre compte dans notre analyse. Et évidemment, il faut valoriser plus les actions qui ont un bénéfice assurantiel pour la société, ceux dont les bénéfices sont particulièrement importants quand l'économie va très mal, quand la consommation des ménages a fortement baissé en un siècle. Par contre, faire une action qui rapporte surtout quand l'économie tout va bien, c'est pas super pour les générations futures. On préférerait avoir comme un contrat d'assurance à engendrer des actions qui engendrent des indemnités, des bénéfices qui sont importants quand on a une catastrophe. Et donc ça, on le fait en rajoutant dans le taux d'actualisation un ajustement pour le risque, et cet ajustement pour le risque est spécifique à chaque projet. Il dépend du profil de risque de chaque projet qui est synthétisé dans un paramètre qu'on appelle le bêta. Le bêta, c'est l'élasticité revenu, l'élasticité au PIB, si vous voulez, hein, l'élasticité au PIB du bénéfice net de votre investissement. Et quand cette élasticité est importante, quand ce bêta est important, eh bien, votre action en question, elle apporte surtout des bénéfices quand le PIB est élevé, alors que quand l'élasticité revenu est négative, elle apporte un bénéfice surtout quand l'économie va mal. Et donc, on va intégrer cet élément assurantiel ou non-assurantiel de votre action en rajoutant un ajustement positif au taux d'actualisation pour les bêta positifs et réduire le taux d'actualisation en dessous du taux sans risque lorsque le bêta est négatif. Or, ce que je vous ai expliqué, je pense la semaine dernière, à moins que ce soit la semaine précédente, je ne me souviens plus, je vous ai expliqué que les modèles que William Nordhaus, par exemple, utilise tente à faire apparaître des situations où, en fait, les efforts de transition énergétique rapide ont des bénéfices surtout dans les bons états de la nature. Les dommages climatiques seront plus importants quand l'économie va bien que quand l'économie va mal. Alors, ça peut paraître contre-intuitif, mais si vous rappelez que en fait, quand l'économie va bien, on émettra plus de CO2 dans le business as usual, dans le laisser-faire, et donc ça va engendrer une augmentation de la concentration de CO2, la nécessité à la fois de faire plus d'efforts, donc d'augmenter les coûts d'abattement, en même temps d'engendrer des dommages climatiques supplémentaires. Et donc, le bénéfice d'une action de réduction d'émissions de CO2 aujourd'hui sera plus important dans cet état du monde où la consommation est élevée. D'accord ? Donc, ça paraît contre-intuitif, mais c'est ce que dit mon modèle, en tout cas, qui est fondé sur les travaux de William Nordhaus. Et donc, en fait, il n'y a pas de valeur assurantielle pour les générations futures à faire plus d'efforts aujourd'hui. Et donc, il faut augmenter. Donc, l'effet de l'incertitude tend à augmenter le taux d'actualisation. Il faut pénaliser l'investissement dans la transition énergétique parce qu'investir cet argent dans des projets sans risque, comme baisser la dette publique, a plus d'avantages en termes de partage de risque intergénérationnel. Et donc, il faut utiliser un taux d'actualisation plus élevé que le taux sans risque, de 4% de Ramsey. Hein. Et donc là, ça va dans le sens inverse de l'hypothèse de prudence que je vous ai expliquée il y a deux minutes. Et donc, voyez, le risque a deux effets contradictoires. Un effet prudentiel de prudence, il faut baisser le taux d'actualisation. Un effet pris en compte de l'aversion au risque, du fait qu'investir dans la transition énergétique engendre des bénéfices qui sont risqués, incite à augmenter le taux d'actualisation. Et donc, on ne sait pas trop, en fait, je suis désolé, à ce stade-ci, on ne sait pas trop quel est l'impact net de la prise en compte de l'incertitude par rapport aux 4% de Ramsey. D'accord ? Sauf que ce que je vous ai expliqué, c'est que dans mon modèle, j'obtiens un bêta qui est compris entre 0 et 1, donc relativement faible, une élasticité positive du bénéfice net des efforts de transition, mais pas très élevé. Donc cet effet négatif, cet effet de positif sur le taux d'actualisation, négatif sur la valeur carbone du caractère risqué des bénéfices des efforts de transition, sont relativement plus faibles que ceux engendrés par la prudence. Et donc, en net, la prise en compte du risque doit nous faire choisir un taux d'actualisation plus faible que 4%. La règle de Ramsey. En net, l'incertitude, ces deux effets ne se compensent pas. Le premier effet domine. Donc, il faut plus petit que 4%. De combien plus petit ? C'est ce que je voudrais regarder avec vous aujourd'hui. D'accord ? Donc, 4%, c'était 43 euros dans le tableau précédent. Donc, de combien plus élevé doit être la valeur carbone ? Est-ce que je dois, par exemple, descendre jusqu'à 1%, qui est le taux sans risque, qui est un taux qui est utilisé, par exemple, par Nicolas Stern, hein, qui engendrerait un prix du carbone autour de 450 euros. Donc, voilà, c'est la question. Vous voyez que la question est d'importance parce qu'elle engendre des différences très importantes dans le choix du prix de la valeur carbone. OK, donc voilà. Donc, la semaine dernière, j'ai développé avec vous ce modèle d'évaluation des actifs financiers fondés sur la consommation, CCAPM en anglais, avec l'abréviation qui va avec. Qu'est-ce que nous a dit ce modèle ? D'abord, ce modèle utilise le voile d'ignorance avec la théorie de l'espérance d'utilité et fait l'hypothèse d'un mouvement brownien pour décrire notre avenir commun, durable ou pas durable, hein, avec une tendance de croissance, disons, à 2%, et une volatilité de cette croissance de 3%, sans corrélation intertemporelle. Hein, chaque année, on va tirer au sort dans une urne qui est une urne gaussienne avec une moyenne de 2% et un écart type de 3%. Chaque année, on va tirer pour déterminer quelle sera la croissance de la consommation de l'économie européenne. D'accord ? Si on fait cette hypothèse-là, donc mouvement brownien géométrique, eh bien, on obtient des équations qui vous disent taux sans risque égale le terme de Ramsey, gamma fois mu, hein, 2 fois 2%, 4%, moins l'effet de prudence, moins gamma carré, moins 1,5 gamma carré, sigma carré, hein, qui est ce terme de prudence. Hélas, ce terme-là, il est très faible, parce que 3%, si je prends sigma égale 3%, volatilité de la croissance annuelle de la consommation, ce qu'on a observé en Europe, en France en particulier, sur le siècle écoulé, 3% au carré, ça fait 3%, ça fait 0,01%. Vous voyez, on est très, très faible. Donc, on doit ajuster les 4% de Ramsey de 0,1% de 0,2%. C'est rien du tout. D'accord ? Cet ordre de grandeur-là. En même temps que la prime de risque, qui est égale à gamma sigma carré, gamma égale 2, sigma carré égale 3% au carré, c'est aussi très très faible. Et donc finalement, les deux effets que je vous ai présentés dans le transparent précédent, ils sont minuscules. Et donc la règle de Ramsey, globalement, continue à s'appliquer et le risque, on s'en fiche. Et pourquoi Christian Gollier vient vous parler de tout ça ? Ça n'a aucune importance. C'est vraiment, les effets sont complètement marginaux. On a un petit problème dans cette théorie, parce que, premièrement, cette théorie, et c'est assez fondamental, cette théorie, elle ne parvient pas à expliquer les prix des actifs financiers sur les marchés depuis un siècle. Et quand je vous dis qu'elle n'explique pas les prix des marchés, les prix des actifs sur les marchés, elle n'explique pas radicalement pas les prix du marché. Hein. Donc le modèle normatif que je vous ai présenté, voile d'ignorance, etc., il va prédire une prime de risque sur les actions de un quart de pourcent ou un demi pourcent par an, La réalité, c'est que sur le siècle écoulé, ça a été 4%. Donc un facteur 10, quoi, de différence. On a pénalisé beaucoup plus dans le siècle écoulé la prise de risque par des entreprises que ce qui leur a été socialement désirable du point de vue de mon modèle en faisant l'hypothèse d'un mouvement brownien. En même temps que, ça c'est le fameux paradoxe de la prime de risque, en même temps que la prise en compte du risque sur la croissance économique sur le taux sans risque, le fameux phénomène de prudence, ne réduit le taux sans risque de 0,2 ou 0,23%, hein, qui est très faible, et donc on donne un taux sans risque théorique autour de 3,5%, 4%, alors qu'on a observé sur le siècle écoulé en France un taux d'intérêt réel autour de 0%, en Allemagne autour de moins 2%. Et donc on est très très loin des 4% que le modèle prédit. C'est radicalement différent. Et rappelez-vous combien une petite différence dans le taux d'actualisation a un effet radicalement important sur les valorisations des actifs comme la valeur carbone, qui est un actif qui a un bénéfice, qui est le dommage climatique non évité grâce à l'action verte que vous entreprenez aujourd'hui. Le premier élément, donc, c'est ces deux paradoxes, le fameux paradoxe qu'on a développé depuis une quarantaine d'années dès que le modèle est apparu d'ailleurs dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, on a réalisé que ce modèle était tout à fait à côté de la plaque. Et en plus, ce modèle, il donne un résultat assez troublant, qui est le taux d'intérêt, il est constant et indépendant de l'horizon temporel. Et donc, si vous devez actualiser à 4% aujourd'hui des bénéfices qui vont se réaliser dans 6 mois ou dans un an, il faut aussi utiliser 4% par an pour actualiser les bénéfices dans un siècle ou dans deux siècles. D'accord ? Alors qu'on voit que sur un marché, la structure par thème des taux d'intérêt, en général, les taux d'intérêt longs sont plus élevés que les taux d'intérêt courts, mais il peut se passer aussi que l'inverse se produise. Donc ça implique quoi? Ça implique un gros problème pour les économistes d'environnement qui essayent de ménager la chèvre et le chou, le caractère normatif et le caractère positif. Vous voyez que si j'utilise les taux d'intérêt et les taux d'actualisation normatifs que j'ai développés avec vous depuis 15 jours, je suis conduit à utiliser un taux d'actualisation relativement élevé et donc une valeur carbone faible, alors que peut-être que si j'utilisais, et c'est la réalité, si j'utilise les taux d'intérêt du marché, je devrais utiliser un taux d'actualisation sans doute plus faible, avec une valeur carbone plus élevée. Donc comment, si les prix que je voudrais qu'on utilise dans la société sont incompatibles avec les signaux prix qui sont envoyés par les marchés financiers ou même les agents économiques à qui j'adresse mes messages, mes recommandations de responsabilité envers les générations futures, j'ai un problème. Comment vous voulez, vous, que si les signaux prix auxquels les agents sont effectivement confrontés, qui vont déterminer notre niveau d'épargne, par exemple, incompatible avec ce que je vous dis de faire en termes de niveau d'épargne pour financer la transition verte, ben on va avoir un problème. D'accord ? Donc, c'est un peu difficile. Ma situation est difficile. Qui du marché ou du philosophe a raison dans cette affaire ? Et je vous rappelle que le marché, c'est les gens. Hein, qui fixe les taux d'intérêt, c'est le marché. En particulier, le taux d'intérêt court, je suis d'accord, la Banque centrale a une influence importante, mais les taux d'intérêt longs, ce n'est pas influencé par la Banque centrale. Les taux d'intérêt longs sont déterminés par la volonté d'épargne des ménages et le désir d'investissement des entreprises. Et donc, c'est l'offre et la demande, et c'est le taux d'intérêt de long terme, il est déterminé par cette intersection, donc notamment par la volonté des gens d'épargner. Et donc, voilà, quand je dis qui du philosophe et du marché a raison, en fait, la vraie question, c'est qui du philosophe ou des gens a raison. C'est un sujet difficile. Donc, en fait, dans la suite, dans la demi-heure qui me reste, je vais vous expliquer que, en fait, un sujet assez important, c'est que le modèle, il est fondé sur l'hypothèse gaussienne, hein, et je ne pense pas que notre représentation de l'avenir commun puisse être représentée par une gaussienne, en particulier pour des horizons très longs. D'accord ? Quelques éléments de réflexion là-dessus. Dans le brownien, il n'y a pas d'effondrement. Il y a des évolutions graduelles, lentes. Il n'y a jamais d'effondrement de civilisation. Il peut se faire que dans un brownien, avec une toute petite probabilité, il va y avoir une détérioration séculaire sur un siècle ou deux, mais tôt ou tard, ça va remonter. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'effondrement de civilisation dans mon, dans ce modèle-là. Or, si ce n'est pas un problème de ne pas mettre d'hypothèse d'effondrement dans un modèle d'évaluation des actifs financiers sur des horizons à 6 mois ou à 2 ans, ne pas mettre d'hypothèse d'effondrement quand on réfléchit à des horizons un siècle, deux siècles ou un million d'années, et ça pose évidemment un problème. De plus, dans le mouvement brownien, j'ai des logs de consommation future qui seront normalement distribués. Vous savez qu'un des points extrêmement importants de la distribution normale, c'est la finesse des queues de distribution. La distribution normale, c'est très peu probable, hein, il y a très peu d'événements. La fréquence d'événements qui s'écartent de la moyenne plus ou moins deux fois l'écart-type est extrêmement faible par rapport à d'autres distributions, comme la Student, hein, qui a des queues de distribution beaucoup plus épaisses. Et donc, est-ce qu'on ne minimise pas les risques en prenant une hypothèse gaussienne? Et puis, regardez ce qui s'est passé dans le passé récent. Le Covid-19 fait s'effondrer la consommation. Alors, heureusement, on est allé emprunter sur les marchés internationaux pour compenser la perte de production pendant la période Covid. Je peux prendre d'autres réserves. Enfin, regardez la Grèce sur les 10 dernières années. Elle a perdu 30% de son PIB en deux ans ou trois ans au moment de la crise de la zone euro. 30%, c'est bien au-delà que la moyenne, moins deux fois l'écart-type du taux de croissance de l'économie grecque. Donc on ne peut pas expliquer ces phénomènes par une hypothèse brownienne. Et donc, je pense qu'on est tous convaincus que le mouvement brownien sous-estime, je pense, l'intensité du risque auquel nous sommes confrontés. Pardon, je vais dans la mauvaise direction. Je voudrais vous expliquer l'importance de l'incertitude sur les probabilités, comment l'incertitude sur les probabilités affecte l'incertitude à long terme auquel on est confronté. Et Jean-Marc Talon, tout à l'heure, reviendra très largement sur les problèmes d'incertitude sur ces probabilités. Moi, je vais rester dans le modèle espérance d'utilité. Vous avez compris pourquoi. Je crois que normativement, il y a un sens à rester dans la théorie d'espérance d'utilité, prendre des probabilités telles qu'elles sont. Mais vous aurez un aperçu de ce qui se passe quand on fait quelque chose de différent. Mais ici, je prends un modèle très simple. Imaginez que le taux de croissance annuel de la consommation soit IID. Il n'y a pas de corrélation sérielle. Chaque année, comme tout à l'heure, au 1er janvier, je tire d'une urne de quel sera le taux de croissance de l'économie dans les 12 prochains mois. Et supposez, pour simplifier l'extrême, que c'est soit de 0%, soit de 4%. Dans mon urne, j'ai deux tickets, un indiqué 0%, un indiqué 4%. Je vais tirer un des deux tickets au hasard. Et donc, j'ai une distribution de probabilité sur la croissance économique de 4%, soit de 0%, soit de 4% avec égale probabilité. Projetez ça sur 2 ans. Donc, à nouveau, si je me projette sur 2 ans, assez simplement, la croissance sur 2 ans sera de 0% avec probabilité 1 quart, 4% avec probabilité 1 demi et 8% avec probabilité 1 quart. Donc, ça, c'est des choses simples. Donc effectivement, l'incertitude s'accroît avec l'horizon temporel. Et ça se traduit par le fait que le facteur d'actualisation, il va s'appétissir aussi pour intégrer le fait qu'il y a plus d'incertitude à plus long terme. Et ça se fait avec un taux d'actualisation qui est constant. Maintenant, je voudrais introduire de l'incertitude sur la probabilité. Finalement, vous n'êtes pas sûr qu'il n'y a que 2 tickets dans l'urne. En fait, il y en a 10. Et vous ne savez pas la proportion de tickets à 0% et la proportion de tickets à 4%. Imaginez qu'il y a deux scénarios possibles. Il y a un scénario où dans l'urne, il y a 9 tickets à 4% et un ticket à 0%. Dans le scénario, c'est l'inverse. Il y a 9 tickets à 0% et un ticket à 4%. Et vous ne savez pas à quelle urne vous êtes confronté. Jean-Marc reviendra tout à l'heure sur un jeu de même nature où on a une incertitude, une ambiguïté sur les probabilités. Donc ça, je le représente sur une période, mais soit la probabilité est égale à 0,1 d'avoir 0%, soit la probabilité est de 0,9 d'avoir 0%, et ces deux scénarios-là sont à chacun la même probabilité. Il y a autant de chances d'avoir l'urne optimiste que l'urne pessimiste. D'accord ? Et donc, en réalité, être confronté, peut-être que vous êtes d'accord ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, Jean-Marc reviendra là-dessus, mais je pense que concrètement, être confronté à cette situation sans incertitude sur la probabilité en statique ou être confronté à cette incertitude-là, techniquement, c'est la même chose. Dans les deux cas, vous avez une probabilité 1/2 d'avoir 0% et une probabilité 1/2 d'avoir 4%. Mais maintenant, projetez ça sur deux périodes. Projeter l'incertitude sur deux périodes. Donc, vous ne savez pas quelle est l'urne. On garde toujours la même urne, hein, d'accord ? Sur les deux périodes, c'est la même urne auxquelles vous êtes confronté, mais vous ne savez pas à quelle urne vous êtes confronté. D'accord ? Donc, deux scénarios possibles. Avec probabilité 1/2, votre urne contient 9 bons papiers qui donnent 4% et un papier qui vous donne 0%. Donc, vous avez une distribution de probabilité sur les deux périodes qui est qui est décrite comme là en haut. Sinon, vous êtes confronté à la mauvaise urne. Non, excusez-moi, ici, la mauvaise urne, celle dans laquelle il n'y a qu'une seule des petits tickets qui vous donne 4%, est projetée sur deux périodes. Vous avez ces distributions 0, 4, 8% avec des probabilités qui sont décrites comme là. Maintenant, quand vous synthétisez les probabilités en composant les probabilités comme il se doit selon la théorie des probabilités, vous allez voir que sur deux périodes, donc quand vous regardez quelle est la probabilité d'avoir 0%, mais 0%, ça va se produire tout en haut de l'arbre, avec probabilité 1/2 de tirer la mauvaise urne, de tirer la bonne urne, auquel cas vous avez une probabilité de 0% de 0,1 fois 0,1, c'est-à-dire 1%. Soit vous allez avoir 0% parce que vous avez la mauvaise urne, probabilité 1/2, auquel cas vous avez une probabilité d'avoir 0% avec une probabilité 0,9 fois 0,9. Donc la probabilité d'avoir 0, c'est la moyenne entre 1% et 81%, 9 au carré, enfin 0,9 au carré. Et la moyenne de ça, c'est 0,41. D'accord ? Donc la probabilité d'avoir 0% dans ce scénario-là, dans cet ensemble, avec l'incertitude sur la probabilité, c'est 0,41%. Et vous faites les calculs pour les autres probabilités, vous obtenez ça. Et quand vous comparez, et à nouveau, là, je suis obligé de dire, quand vous comparez sur deux périodes, ce qui se passe ici sans incertitude paramétrique, où la probabilité des événements extrêmes, 0 et 8%, est de 25%, ici, vous faites monter les probabilités d'événements extrêmes à 41% chacun. Donc, vous voyez que l'incertitude paramétrique n'a pas d'effet sur le risque court terme, mais magnifie le risque de long terme. Hein ? Pourquoi ? Parce que, concrètement, hein, quand vous observez la première période, que vous n'avez que 0%, que votre économie a stagné pendant la première période, mais vous êtes tous... C'est une mauvaise nouvelle. Et c'est deux fois une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que c'est stagnation cette année, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que vous êtes obligé de réviser votre probabilité d'être confronté à une mauvaise urne, qui, étant donné que vous avez observé la stagnation cette année, augmente la probabilité que cette urne soit mauvaise et que pour le reste de l'histoire de l'humanité, vous soyez confronté à cette terrible urne. D'accord ? Donc c'est doublement mauvaise nouvelle. Donc voyez pourquoi, ça explique pourquoi l'incertitude paramétrique magnifie les risques de long terme. D'accord ? Et donc ça justifie, hypothèse de prudence, qu'on baisse le taux d'intérêt sans risque. De combien ? C'est ça la question. Je vais passer cet élément. Je vais reprendre cette idée en la rendant un petit peu plus sophistiquée pour la faire rentrer dans mon modèle originel avec un mouvement brownien. Je vais en fait faire l'hypothèse maintenant que mon mouvement brownien, je suis confronté à un mouvement brownien. Je suis confronté à une urne qui est brownienne. Mais je ne sais pas cette urne, quelle est sa tendance, quelle est cette traîne de croissance, quel est le mu, je sais que je suis confronté à un mouvement brownien, mais je ne connais pas la tendance à ce mouvement brownien. Je ne sais pas si dans les deux prochains siècles, la tendance sera de... Je sais que la volatilité sera de 3%, mais je ne sais pas si la tendance sera de 2%, de 1% ou de 3%. D'accord ? Et donc ça... Vous avez compris un exemple numérique à l'instant. Ça va faire en sorte que vous n'avez pas vraiment modifié les risques de court terme. L'effet volatilité de court terme domine largement l'incertitude sur la tendance. alors que sur le long terme, cette incertitude sur la tendance va être absolument prédominante. Mais imaginez que la tendance soit de 1%, soit de 3% avec égale probabilité. Vous savez que vous êtes confronté à une urne brownienne, mais il y a deux urnes possibles. Il y a une urne brownienne à 1% de tendance et une urne brownienne à 3% de tendance. Et vous aujourd'hui pensez qu'il y a autant de chances que vous soyez confronté à l'urne à une tendance de 1% ou à l'urne à une tendance de 3%. Évidemment que si vous regardez l'espérance de consommation dans 200 ans, si vous avez la mauvaise urne, celle avec un taux de croissance espéré de 1%, la consommation ne sera que de 7 fois supérieure dans 200 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors que si vous faites l'hypothèse que vous êtes confronté à une urne à tendance à 3% par an, dans 200 ans, la consommation espérée sera de 369 fois la consommation d'aujourd'hui. Vous voyez que l'effet d'accumulation des croissances, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas additif. Il y a un aspect d'intérêt cumulé, de rendement cumulé. Les petits font les petits. Et donc, c'est non linéaire. Donc, l'espérance de consommation en utilisant le taux de croissance espéré de 1% n'est pas la même que l'espérance de la consommation en utilisant 1% ou 3% avec égale probabilité. D'accord ? Donc cette incertitude, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que cette incertitude sur le taux de croissance, sur le taux de croissance espéré, a un impact radicalement clé sur notre vision du long terme. Et donc, si on reconnaît cette incertitude sur la tendance, reconnaît impliquant que ça augmente massivement le risque de long terme, ça doit bien sûr avoir pour impact, et je me réjouis, en tant que théoricien de la décision en incertitude comme Jean-Marc, le risque plus important va faire évidemment que les valorisations des actifs vont beaucoup plus intégrées dans la problématique de risque que ne le faisaient dans le modèle que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. D'accord ? Et ça me donne des tableaux comme ceci. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mon modèle, en utilisant le voile d'ignorance, une inversion d'inégalité de 2, pas de racisme contre les jeunes ou les vieux, et un mouvement, une hypothèse comme celle que je viens de vous faire, avec brownien conditionnel au taux de croissance espéré mu, mais mu pouvant prendre la valeur de 1% ou 3% avec égale probabilité, voilà les taux d'actualisation que vous devez utiliser, les taux d'actualisation que vous devez utiliser en fonction de la maturité de votre bénéfice, du bénéfice de votre action, de 0 à 150 ans, et en fonction du bêta, cette élasticité au PIB, du bénéfice net de votre projet. Si je me laissais moi 2 minutes pour me concentrer sur bêta égale 0, bêta égale 0, c'est le taux d'actualisation que vous devez utiliser pour les projets sans risque. Il doit être autour de 4% à court terme. 4%, c'est Ramsey. C'est Ramsey moins 1,5 fois gamma carré sigma carré, et ce deuxième terme, il est pratiquement égal à 0 dans mon modèle, en tout cas pour le court terme. Donc à court terme, les projets sans risque, je dois les actualiser à 4%. Par contre, ces mêmes projets sans risque, mais si le bénéfice est dans 150 ans, je dois plutôt utiliser un taux d'actualisation de 0%. D'accord. Et donc, si je me concentre alternativement sur un projet dont le bêta est égal à 1, dont le bénéfice net augmente de 1% quand la consommation augmente de 1% et baisse de 1% quand la consommation agrégée baisse de 1%, donc un bêta égal à 1, le profil de risque de mon projet, il a le même profil de risque que la consommation agrégée. Dans ce cas-là, vous devez utiliser bêta égale 1, vous devez utiliser la structure par terme du taux d'actualisation correspondant à la droite horizontale à 4%. Et donc la différence en fait, entre cette courbe-là à bêta égale 0 et bêta égale 1 vous donne la prime de risque. Donc je vous ai dit tout à l'heure, supposons que ça soit mon modèle, supposons que ça soit notre représentation collective de notre avenir collectif incertain. C'est un brownien dont je ne connais pas la tendance, et la tendance est égale à 1% ou 3%. Rappelez-vous, je vous ai rappelé que la maturité moyenne des bénéfices climatiques, c'est 80 ans. Et je vous ai dit aussi, ça c'est les travaux que je vous ai présentés lors des deux dernières semaines, je vous ai dit le bêta, l'élasticité PIB des dommages à l'environnement liés en fait, d'émettre une tonne de CO2 en plus aujourd'hui, ce bêta est, égal, est compris quelque part entre 0 et 1. Et je suis désolé, je ne peux pas vous en dire plus que ça aujourd'hui. Moi, je pense que c'est plutôt proche de 1. Mais j'ai au moins deux papiers, un d'origine hollandaise et l'autre d'origine américaine, New York, Columbia, qui me dit non, c'est plutôt bêta négatif. Donc, mais parce que je vous expliquais pourquoi ils se trompaient. Mais, donc voilà, si on accepte que la maturité moyenne est dans 80 ans pour les changements, pour les bénéfices de la transition énergétique et que le bêta de la transition, des investissements de transition énergétique sont compris entre 0 et 1, voilà la marge, voilà l'intervalle du taux d'actualisation que je devrais utiliser pour actualiser ces 1 000 euros dans 80 ans. C'est compris entre 4% et un peu moins que 1%. Et donc, c'est un petit peu une œuvre d'art. On peut mélanger la science et l'art. Parce que là, je rajoute, dans mon modèle, je vous ai rajouté un business cycle, un cycle des affaires. Hein, où, en fait, à court terme, il y a le brownien. En fait, la tendance, elle est plus élevée quand tout va bien. Elle est plus. Et la tendance à baisser quand la tendance est forte. Et en fait, la tendance est elle-même une variable aléatoire qui se déplace autour d'une moyenne historique de 2%. Donc, quand je fais cette cycle des affaires, en fonction de vos positions dans le cycle des affaires, vous allez devoir, si vous êtes plutôt en récession, utiliser les courbes rouges, ou si vous êtes plutôt en phase de surchauffe économique, vous allez devoir plutôt utiliser les courbes vertes. Et si vous êtes au milieu du cycle, vous allez devoir utiliser les mêmes courbes bleues que celles que je vous ai présentées dans le transparent précédent. Je n'ai pas vraiment le temps de vous présenter ça, donc excusez-moi d'accélérer un petit peu le pas, mais ça va être pas mal en termes de timing. Donc voilà, donc si je reviens, si vous acceptez mon message, il est important ici, il est de dire, eh ben, dans ce modèle-là, je dois utiliser un taux d'actualisation quelque part entre 4% et 1%. 4% si je pense que le bêta est proche de 1 et 1% si je pense que le bêta est proche de 0. Et donc, ça veut dire en termes de valeur carbone, une valeur carbone qui est comprise entre 43 et 450 euros. Alors, je n'ai pas fort aimé cette conclusion parce que ça vous laisse encore une marge de manœuvre importante. Je suis désolé, on travaille ici au rythme des progrès scientifiques. Je suis un peu désolé aussi qu'il y ait très peu, en fait, je me sens très seul dans mes travaux scientifiques à travers le monde pour essayer d'estimer ce bêta climatique. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je suis très heureux de la venue de William Lordos, c'est que lui-même est très intéressé à ce que je fais parce que lui-même aussi défend l'idée qu'il faut corriger le taux d'actualisation de Nick Stern, qui est plutôt de dire qu'il faut 1%, par la prise en compte de l'incertitude, donc il faudrait quelque chose de plus grand qu'un 1%. Donc on est assez alignés, lui et moi, mais on n'a pas. On reste sans message clair sur à quel niveau il faudrait aller entre 43 euros et 450 euros. Et encore, je le rappelle, bien sûr, hein, et encore, ceci est construit sur la base d'une hypothèse un peu hardi de dire on est dans un mouvement brownien avec une tendance inconnue, soit 1%, soit 3%, avec quelle probabilité. Ça ressemble plus à une analyse un peu, de scolaire, quoi. Il faudrait être beaucoup plus précis sur la façon dont on caractérise l'incertitude qui pèse sur la tendance. J'ai fait ces travaux, mais je ne vais pas vous les présenter ici, ça dépasse le temps et le temps dont je dispose pour vous présenter tout ça. Je voudrais vous présenter, et je terminerai par là, je voudrais vous présenter une autre approche qui intègre une dimension d'incertitude profonde sur l'évolution de la croissance économique, et c'est une approche qui est construite sur les travaux de mon collègue de Harvard, Robert Barrow, hein, qui, dans les années 2000, un petit peu avant la crise des subprimes d'ailleurs, a proposé une résolution du paradoxe de la finance que je vous ai présenté tout à l'heure, paradoxe de la prime de risque, paradoxe du taux sans risque, fondé sur l'hypothèse qu'en fait, il faut s'écarter du brownien parce qu'on a des événements extrêmes. On a des queues de distribution, en particulier dans les catastrophes, qui sont beaucoup plus épaisses que celles que l'on a quand on fait une hypothèse brownienne. Et pour étayer ces, Et pour étayer son analyse, il a repris les travaux de Madison, hein, qui a fait lui sa carrière sur essayer de reconstruire des historiques de croissance économique sur deux millénaires pour un tas de pays, pour un tas de régions du monde. Et il est allé revoir ça sur le siècle écoulé. Donc il a pris les 100 dernières années, alors celles de 1906 sans doute jusqu'à 2006, puisqu'il a publié ce travail en 2006. Il a regardé tout, année par année les taux de croissance de ces 35 pays sur le siècle écoulé. Donc il a en fait 35 fois 100 observations, donc 3500 observations de taux de croissance économique annuel de ces 35 pays. Il a regardé toutes les séquences où la chute du PIB était supérieure à 15% dans des années consécutives. Et donc vous avez là, pour ces 35 pays, l'ensemble de ces événements. Par exemple, la France a subi trois événements avec une chute de plus de 15% du PIB sur les 100 dernières années. La France, pendant la Première Guerre mondiale, donc de 1916 à 1918, a perdu 31 ou 29 31, peut-être vous voyez mieux que moi, 31% de son PIB entre 1916 et 1918. Évidemment, c'est impossible de faire rentrer ça dans une gaussienne. Hein. À nouveau, avec taux de croissance de 2% et un écart-type de 3%, l'événement avoir trois ans de chute de 31%, c'est impossible. D'accord ? Deuxième événement pour la France, la Grande Dépression. Entre 1929 et 1932, le PIB français chute de 16%. Puis finalement, Deuxième Guerre mondiale, la France, entre 1939 et 1944, va perdre 49% de son PIB. Exemple d'événements extrêmes, de catastrophes macroéconomiques, hein, qu'il faut absolument intégrer dans le modèle si on veut avoir une bonne représentation en utilisant le passé ouvert sur 35 pays. Hein, si finalement on se dit ce qui s'est passé en Grèce en 2010, 2011, 2012 pourrait très bien se passer en France en 2030, 2031, 2032, finalement reprendre cet ensemble d'événements comme représentatif du risque qu'un pays tiré au hasard a d'affronter un risque, une catastrophe macroéconomique dans les 12 mois qui suivent ou dans les 3 ans qui suivent. Et c'est ce que Barrow fait. Donc il va combiner, en fait, ce que Barrow va faire, c'est qu'il va combiner un brownien avec un poisson. C'est-à-dire avec une certaine probabilité, avec une petite probabilité, chaque année, au lieu de tirer de l'urne brownienne standard avec une entraîne de croissance de 2% et un écart-type de 3%, une fois tous les 100 ans, avec une certaine probabilité, 2-3%, eh bien, je tirerai dans une autre urne qui, elle, est une catastrophe. L'urne catastrophe, elle a une chute du PIB de 25% en moyenne et un écart-type de je ne sais pas combien de pourcents. Voilà. Donc, et dans ce monde-là, évidemment, ça augmente massivement le risque, et donc ça va augmenter l'impact du risque sur le taux sans risque et sur la prime de risque. De combien ? Alors, c'est ça les travaux de Robert Barrow et de mon collègue Yann Martin de LSI. Calibre cela en faisant différents trucs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Donc, il y a deux urnes. Alors, je suis désolé, ça ne passe pas bien là, mais c'est pas très grave, ça va être un tilde plutôt qu'un rectangle. Mon taux de croissance annuel est bien IID. Donc, il n'y a pas de corrélation sérielle. Mais chaque année, je suis confronté à deux urnes avec une certaine probabilité P. Je vais tirer l'urne catastrophe H2, qui elle-même est une normale, mu 2 sigma carré 2. Et sinon, avec une probabilité 1 moins P, je vais tirer de l'urne normale H1, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, l'urne sans catastrophe, enfin, qui est gaussienne standard. Et à partir de ces analyses statistiques synthétisées dans ce tableau, il calibre à la fois les volatilités et les tendances dans chacune de ces deux urnes, et puis il estime aussi, surtout, la probabilité de tirer de l'urne, la probabilité chaque 1er janvier de tirer de la mauvaise urne. De l'urne catastrophe. Et comme il observe 60 catastrophes sur 3500 observations, il en déduit une probabilité de 60 divisé par 3500, c'est-à-dire 1,7%. Voilà. Et donc, quand il réinjecte cette représentation dans les équations d'évaluation. Hein, les équations d'évaluation, je ne les ai pas reprises, mais elles sont là. Hein, l'équation que j'ai développée à partir du voile d'ignorance et la théorie de l'espérance d'utilité. Voilà mon modèle d'évaluation des actifs financiers. Si je réinjecte dans C1, hein, je prends le taux sans risque, par exemple, Y égale 1 avec probabilité 1. Donc, si C1 a une distribution, CT par exemple, par contre, a une distribution de probabilité correspondant à celle que Barrow a développée, eh bien, on obtient un taux sans risque en résolvant le calcul de ces espérances. Ce n'est pas compliqué, hein, les maths sont assez. Il faut calculer des espérances, quoi, hein, sur des distributions un peu compliquées, puisque je mélange du brownien avec du poisson. Mais ça me donne, ah, ça c'est intéressant, pas 4%. Le taux sans risque, ça me donne 0,5%. Et donc, vous voyez que là, je me rapproche d'un taux sans risque correspondant à l'observation des taux sans risque réels durant le siècle écoulé. Et donc, mon modèle utilisant voile d'ignorance espérance d'utilité est compatible avec l'observation des marchés, mais en reconnaissant que le brownien n'est pas une bonne représentation de l'incertitude collective. Et même chose pour la prime de risque, on obtient dans ce modèle-là une prime de risque de 6%. Alors, il me reste 5 minutes, je voudrais vous dire deux choses là-dessus. La première chose que je voudrais vous dire, c'est ceci. En France, depuis l'été 2021, nous utilisons un système d'actualisation qui est, je vous l'ai dit, représenté par l'équation de là en haut, à droite. R égale 1,2% plus bêta fois 2%. Donc on utilise un taux sans risque de 1,2% et une prime de risque de 2%. Ce n'est pas du tout les 4% que je vous ai donné tout à l'heure, règle de Ramsey, et une prime de risque minimum correspondant au CCAPM. Pourquoi ils proposent qu'en France, toutes les politiques publiques soient évaluées avec ce système d'actualisation-là, qui dépend, je vous le rappelle, d'une nécessité d'estimer pour chaque projet le bêta de ce projet. On ne va pas utiliser le même taux d'actualisation pour actualiser un projet de construction d'un nouveau ligne de lit de réanimation dans un hôpital parce que le bêta est négatif pour ce projet, que l'on va utiliser le taux d'actualisation pour, par exemple, construire une nouvelle ligne TGV entre Bordeaux et Toulouse parce que le bêta de ce projet-là, il est positif et donc il faut utiliser un taux d'actualisation plus élevé pour les TGV que pour les lits d'hôpitaux. On va faire la même chose pour le changement climatique et pour calculer la valeur carbone à partir de l'estimation des dommages futurs évités grâce à la transition énergétique que nous allons enfin mettre en œuvre. Donc d'abord, deux, trois points. D'abord, ces 1,2% plus bêta fois 2% ne sont pas encore l'objet d'un rapport. Je pense qu'un rapport va sortir en 2022, mais je ne connais pas les détails. C'est issu d'une note qui a été validée par la commission en charge de la rédaction de ce rapport. Donc on est encore en phase préliminaire. C'est une note qui a été écrite par mes collègues Joël Maurice, Jincheng Ni et Jean-Paul Ourliac. C'est limité à la période 2021-2070, donc on ne dit pas encore quel devrait être le taux d'actualisation utilisé pour des horizons plus éloignés. Et vous avez vu que les modèles m'incitent à utiliser des taux d'actualisation différents en fonction de la maturité des investissements, des bénéfices engendrés par les investissements. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. Le jury délibère encore. La commission n'a pas encore remis son rapport sur cette partie-là de l'analyse. Mais juste en deux mots, donc en fait, pourquoi je vous parle de ça ici ? Parce que ces chiffres-là sont issus de la même utilisation de l'idée de Barrow, mais en utilisant des paramètres un peu différents. Donc, ici, pour obtenir ça, moi, j'ai toujours milité pour gamma égale 2, hein, le degré d'inversion d'inégalité de 2, ben, ils sont obligés de monter à 2,5. Bon, je trouve ça beaucoup. Bon, je vous le signale. Ils sont aussi obligés de pénaliser les jeunes. Hein. Ils utilisent un taux de préférence pure pour le présent de 0,5. Notre bien-être est plus important que le bien-être des générations futures, simplement parce que les gens vivront plus tard et qu'on donne une prime aux gens qui vivent tôt, plus proches de l'ère de Jésus-Christ. D'accord ? Donc ça, c'est gamma égale 0,5. Bon, je tenais à vous le signaler aussi. Et puis, voilà, dans l'urne standard, on a une tendance de 1,15%. C'est ce que donne le corps, hein, la commission en charge de réviser et de faire des projections sur l'évolution du système de retraite. C'est pour le siècle écoulé, le COR fait une hypothèse pour l'équilibre des systèmes de retraite à 1,15% par an en réel. Et une volatilité, alors là, ils vont mettre la sauce, c'est 7% par an. Je vous ai dit que la volatilité du taux de croissance de l'économie française, c'était 3% sur le siècle écoulé. 7%, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé. Et puis une probabilité de catastrophe annuelle de 4% par an. Waouh, c'est aussi important. Donc, vous voyez qu'il faut un peu tordre le modèle de Barrot pour y arriver, et puis il remplace l'hypothèse de l'urne de catastrophe, elle est pas gaussienne, elle est Pareto. Bon, ça me va bien. Voilà, donc vous voyez que ces idées-là, elles sont mises en œuvre aujourd'hui. Elles ont des impacts sur est-ce qu'on va construire des hôpitaux demain en France, est-ce qu'on va construire des TGV en France demain. Donc c'est pas, je ne vous parle pas de choses qui sont dans les terres, c'est des choses qui conduisent à des décisions économiques. Alors je ne sais pas si les politiques suivent les recommandations des évaluateurs, en tout cas s'ils le font, voilà ce que ça. Et sachez que tout ça vient d'analyses qui sont celles que je vous ai présentées aujourd'hui, et en fait qui se sont construites, que j'ai construites avec vous depuis 3 ou 4 semaines. Voilà, et puis je vais terminer par. Oui, juste en deux mots, je peux pas. En fait, si je reprends Barrot, j'ai un petit problème avec Barrot, parce que Barrot il dit la probabilité de catastrophe est de 1,7%. Je dis observer 60 catastrophes sur 3500 observations, donc c'est 1,7%. Mais bien entendu que l'estimation d'une probabilité de 1,7%, ça nécessiterait beaucoup plus que 3500 observations pour bien l'affiner. Et en fait, quand vous faites une approche bayésienne de l'estimation de la vraie distribution de probabilité de catastrophe en utilisant une a priori non informative et les 3500 observations, vous avez une distribution a posteriori de la probabilité de catastrophe annuelle qui est décrite par une loi de bêta. Hein, je ne vous rappelle pas les détails, mais graphiquement, c'est représenté par une fonction de densité comme ceci. Donc vous voyez bien qu'avec les observations, on pourrait très bien, ce n'est pas impossible que la vraie probabilité de catastrophe annuelle soit pour la France non pas de 1,7%, mais de 1% ou peut-être de 2,5%. Et ça, la prise en compte de cette incertitude, ben, à nouveau, le fait qu'il y ait une incertitude sur la probabilité de sinistre de catastrophe macroéconomique dans le modèle de Barrot magnifie encore plus le risque que Barrot est prêt à le reconnaître. Et ça, c'est un peu dommage, puisque c'est quand même l'objectif final, hein, c'est d'intégrer la profondeur de nos incertitudes sur l'avenir futur. Il faut aussi tenir compte de cela. Et quand vous tenez compte de cela, en fait, sur le très long terme, les taux d'actualisation que vous devez utiliser dans Barrot, reconnaissant que la probabilité de catastrophe catastrophe macroéconomique est incertaine, eh bien, c'est des taux d'actualisation qui n'ont rien à voir avec ce que Barrot propose. Mais c'est uniquement pour le long terme. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je voudrais juste conclure sur... j'y reviendrai la semaine prochaine, en fait. Mais en deux mots, je vous ai défendu à la mi-janvier, fin janvier, l'idée qu'il faudrait un prix du carbone de 160 euros. D'accord ? Aujourd'hui, croissant à 4% par an. C'est-à-dire qu'il atteindrait 500 euros autour de 2050. Je vous ai fait cette recommandation sur quelque chose qui n'a rien à voir avec les calculs que je vous ai faits depuis 3 semaines. Pour recommander 160 euros, j'ai dit, mais faisons table rase de tous les dommages climatiques. Reconnaissons que les politiques au niveau mondial, dans les accords de Paris, en décembre 2015, ont décidé que ça serait 2 degrés. Qu'on ne voudrait pas franchir 2 degrés Celsius si à ce moment-là, on avait une contrainte budget, un budget carbone intertemporel à se partager dans le monde dans les 30 prochaines années. Et la question qui se posait dans ce cadre-là, c'est juste de savoir quelle est la chronique de prix du carbone entre aujourd'hui et 2050 qui est compatible avec le fait qu'on abatte suffisamment nos émissions de CO2 pour respecter ce budget carbone intertemporel. Et ça, ça donne un prix du carbone qui n'a plus rien à voir avec les dommages. Enfin, qui n'utilisent plus pour la modélisation les dommages, qui regardent juste quel prix du carbone est compatible en connaissant l'élasticité prix des émissions de CO2, sensible au prix du carbone, de combien, quel était le niveau du prix du carbone compatible avec ce budget carbone. Donc ça me donnait 160 euros. D'accord ? Depuis, j'ai pris, sur les 3 dernières semaines, j'ai dit, ça, c'est d'une analyse de second best, de second rang. C'est, on laisse le politique décider de l'objectif, il est peut-être, ce 2 degrés Celsius, il va peut-être exiger des efforts trop importants par rapport aux bénéfices qu'il va engendrer pour les générations futures. Donc posons-nous la question plus fondamentale de quel est l'objectif, est-ce qu'il doit être de 1,5, de 2 degrés, de 3 degrés, mais plus globalement, essayons de calculer la valeur carbone qui est simplement, hein, rappelez-vous la règle de Pigou, hein, mettons un prix du carbone qui est égal à la valeur présente des dommages engendrés si la personne émet cette pollution. D'accord ? Donc, quelle est la valeur carbone estimée comme la valeur présente des dommages futurs engendrés par cette émission de CO2. Et là, on est rentré dans 3 semaines compliquées où je vous ai dit il faut calculer un taux d'actualisation. Et ce taux d'actualisation, mes calculs conduisent à dire que ce taux d'actualisation doit être compris quelque part entre 1 et 4%. C'est-à-dire que la valeur carbone doit être comprise entre, disons, 40 euros ou 45 euros et 450 euros aujourd'hui. Je suis désolé, il faudra encore faire des travaux sur... Il faudrait créer un consensus des experts sur quel est le bêta climatique, mais sans consensus là-dessus, je suis obligé de laisser une fenêtre de tir très large. Mais voyez, entre 45 et 450, les 160 sont dedans. On fait avec ce qu'on a. Donc, ce n'est pas impossible que 2 degrés Celsius soit finalement le bon objectif, alors que Nordhaus nous dit que 2 degrés, c'est beaucoup trop sévère, il faudrait peut-être aller à 3 degrés. Le prix du carbone, il ne doit pas monter au-dessus de 100 euros aujourd'hui. Voilà. Donc, je reviendrai sur ces conclusions la semaine prochaine, hein, dans ma première demi-heure. Et puis, je vous rappelle, n'hésitez pas à me poser des questions à mon adresse e-mail pour préparer la deuxième partie de la séance prochaine. Donc, je vais interrompre la séance pendant 2 minutes, le temps de transmettre mon micro à Jean-Marc Talon, qui va occuper la deuxième heure, pour vous expliquer que finalement, le modèle d'espérance d'utilité, il n'est peut-être pas le bon modèle quand on raisonne sur des problématiques où la probabilité d'événement est incertaine, est ambiguë. Voilà, 2 minutes. Merci.